Retrouvez Dear Well People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Dear Valley People, bonjour à tous, chers auditeurs. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode. Après notre chapitre sur la santé, nous allons commencer un chapitre sur le loisir en situation de handicap. Et pour commencer ce chapitre, j'ai trouvé très logique comme transition de parler de l'APA, l'activité physique adaptée. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir un coach APA, Valentin Biard. Bonjour.
Bonjour Damien, merci de m'inviter.
Avec plaisir, comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Très bien, un peu fatigué, une grosse journée, mais pour la radio, on est toujours prêt. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'APA ? Qu'est-ce que l'APA, au final ?
Alors, l'APA, donc c'est un acronyme donc qui justement se résume en disant donc c'est activité physique adaptée. Donc, c'est un concept, justement, professionnel, c'est un champ à part entière professionnel, qui, justement, utilise des pratiques corporelles dans le but d'une amélioration de la santé, donc des personnes malades, en situation de handicap ou vieillissantes. Voilà.
D'accord. Et vous travaillez dans un centre, le centre de rééducation Probara ?
C'est ça. Donc, les activités physiques adaptées peuvent être justement dispensées dans différents cadres. Donc, on a la branche, on va dire, sanitaire. Donc, effectivement, ce qui regroupe tous les centres de soins de suite et de réadaptation, tels que Probara, effectivement. On a aussi la branche sociale, médico-sociale. Donc, il peut regrouper effectivement des maisons d'accueil spécialisées ou autres établissements, des femmes ou quoi que ce soit. Et on a une dernière branche, la branche un peu plus sport, qui regroupe d'une part les structures fédérales, donc comme les comités handisport, ou comités justement sport adapté. Et une autre branche dans la branche sport, on va dire tout ce qui est association. Ou service APA, on va dire, donc ça regroupe les associations telles que sur Montpellier, le Montpellier Club Handisport par exemple. Voilà les différents secteurs justement où nous, professionnels en APA, pouvons justement intervenir, les branches principales.
Nous allons parler de ces trois branches petit à petit. On va commencer donc par le côté sanitaire avec le centre Probara. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous avons pu déjà recevoir ici à Dear Well People un médecin MPR du centre Probara, le docteur Claire Palayer. N'hésitez pas à aller écouter cette émission pour en apprendre plus. Valentin, comment pourriez-vous résumer votre travail au sein du centre Probara et notamment en collaboration avec les autres corps de métier de la santé ?
Alors, au sein du centre Probara, donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne faisons pas de la rééducation, telle que les professionnels, par exemple, de kinésithérapie ou d'ergothérapie. Nous sommes plus justement sur de la réadaptation. Donc l'idée, c'est vraiment de construire, de concevoir des projets en essayant justement pour les patients, donc on parle de patients au sein du centre Probara, nous pouvons justement les amener à, d'une part, à redécouvrir un peu le corps blessé et justement de se servir des activités support telles que, prendre l'exemple des tennis de table ou du tir à l'arc ou de la serbacane. C'est comment justement avec ces activités support nous pouvons avoir des objectifs. Donc des objectifs d'autonomie, des objectifs, on va dire, fonctionnels. Donc nous, on n'a pas, on va justement travailler sur différents aspects. Donc on a l'aspect fonctionnel, on a l'aspect psychologique, on a l'aspect biologique, cognitif et social. Et à travers justement ces activités support, on va justement travailler sur ces différents aspects. Voilà comment un peu se construit nous notre intervention. Après, donc, étant donné que nous fonctionnons au sein d'un service pluridisciplinaire, nous travaillons en collaboration avec l'ensemble justement des professionnels de santé, sachant que nous-mêmes, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Nous sommes pas régis par le code de la santé, mais par le code du sport. Donc nous sommes en premier lieu des professionnels de sport, mais qui interviennent justement auprès de la santé de ces différentes personnes blessées médulaires qu'accueille le centre ProPara. Et donc c'est de construire des programmes ensemble, avec justement les différents professionnels, donc que ça soit les psychologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens s'il y en a sur certains centres, les kinésithérapeutes, et bien sûr chapeautés par les médecins, parce qu'effectivement les personnes qui viennent dans les cours d'activité physique adaptée sont justement autorisées ou non par le médecin. Nous avons justement des réunions qui permettent de parler des différents patients et de voir un petit peu les précautions, les contre-indications ou tous les éléments importants, nous, pour notre prise en charge. Parce que justement, il peut y avoir certains risques en fonction des populations. Et nous, le plus important, c'est aussi ça, c'est vu que nous sommes des professionnels qui agissent pour la santé, d'avoir justement ces différentes précautions envers les patients.
Cher auditeur, juste pour rappel, les blessés médulaires sont les blessés à la moelle épinière. Tout le monde n'est pas forcément au courant. Valentin, comment vous pouvez évaluer ces évolutions au niveau physique, psychologique, biologique? Quels sont les éléments sur lesquels vous vous appuyez? Je suppose qu'il y a un travail aussi de co-construction avec le patient aussi, ce n'est pas uniquement que avec le corps médical, je suppose. C'est un travail un peu en triangle. Je suppose que aussi, ce n'est pas facile de trouver un équilibre entre vous trois. Est-ce que vous pouvez un peu développer de ce côté-là?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les patients qui viennent, nous, dans les séances d'activité physique adaptée, ne sont pas obligés de venir. Nous partons du principe que pour qu'une personne adhère justement à un programme, il faut qu'elle vienne aussi, que ça vienne un peu de sa volonté. Donc c'est justement en imposant les choses qu'on va avoir l'effet inverse et qu'on va avoir justement une personne qui va avoir des freins justement à venir pratiquer une activité. Donc c'est les patients qui arrivent effectivement au centre, c'est des personnes qui ont été victimes d'une maladie, d'un accident, et donc justement il y a un choc important, parce que les personnes justement vont par la suite être en fauteuil roulant, et donc c'est d'accepter effectivement ces différents éléments. Donc c'est pourquoi, pendant qu'on essaye justement de faire ma rééducation, pendant que je fais ma rééducation, pourquoi j'irai faire une activité physique, pourquoi j'irai m'occuper à faire ça en fait. Donc c'est essayer effectivement d'expliquer aux patients l'objectif de ces séances en activité physique adaptée. Leur expliquer que c'est pas des séances, ça va pas justement empêcher la suite de leur rééducation, c'est pas pour remplacer une autre prise en charge avec un autre professionnel, mais c'est vraiment une prise en charge complète et globale. Et donc c'est effectivement fixer des objectifs avec le patient. Effectivement, nous on se renseigne auprès des autres professionnels sur les différentes caractéristiques, sur ces éléments-là du patient. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est de sonder aussi les besoins du patient, ses attentes aussi. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'inscrire le patient dans une continuité. Donc c'est aussi d'accompagner. En général, le patient, quand il vient en séance d'activité, le but, c'est pas juste je viens faire une activité, je m'en vais et point barre. C'est essayer de voir aussi si on peut amener un accompagnement par la suite. Donc vous parlez justement d'évaluation. Ça peut se faire effectivement de façon informelle. Comment évaluer peut-être une personne d'un point de son aspect un peu social, par exemple. Donc ça, voilà. Il y a des éléments, effectivement, des tests qu'on peut réaliser durant une prise en charge, durant entraînement à l'effort ou sur d'autres éléments. Mais effectivement, les évaluations, ça peut être plus informel Mais ça se fait toujours effectivement en accord avec le patient et en fonction de, justement de ses attentes et de ses besoins. Donc c'est comment après par la suite je peux continuer cette activité physique adaptée que j'ai amorcée au sein du centre, dans d'autres structures, dans d'autres associations ou dans des fédérations. Voilà, c'est aussi ça.
Lorsque le patient fait ce choix de venir en activité physique adaptée, choix qui n'est pas toujours facile, il me semble, je pense que vous êtes témoin de moments assez intenses en termes d'émotions au niveau de cette redécouverte du corps et aussi cette redécouverte de capacités où les gens ne pensaient pas être capables de faire tout ça. Alors qu'on leur a annoncé qu'ils allaient être en fauteuil roulant à vie pour certains. Comment vous le vivez, vous, en tant que professionnel du sport, et comment vous pourriez en parler aussi de manière générale?
Effectivement, c'est quelque chose d'assez intense, on va dire, parce que, comme vous le dites, les personnes viennent aux activités, donc déjà ne savent pas pourquoi elles viennent aux activités. Certaines le savent très bien, certaines ont déjà quelques connaissances, donc elles savent un petit peu ce que ça peut leur apporter. Mais dans une grande majorité, les patients viennent justement peut-être pour découvrir, ou peut-être parce qu'effectivement ils ont eu des échos d'autres patients. C'est beaucoup le bouche à oreille, c'est un patient, tiens, j'ai fait une activité, elle est très intéressante, va l'essayer, c'est super sympa. Voilà, beaucoup viennent au début en disant, on m'a dit de venir, je viens, je découvre, ça me plaît, bon, je resterai, ça me plaît pas, bon, j'arrêterai, quoi que ce soit. Et effectivement, la plupart viennent, sont sceptiques, souvent, et se disent, je ne serai pas capable de faire ça. Donc, ok, très bien, donc il n'y a pas de souci, donc chacun a son avis sur la chose, donc on fait les séances, et effectivement, on fait un retour en fin de séance, en demandant toujours l'avis de la personne. C'est pour ça que ça se fait toujours en collaboration. Il y a toujours voilà, on n'impose jamais rien, toujours force de proposition, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et les patients, effectivement, se rendent compte que au final, je ne pensais pas que j'arriverais à faire ça. Au final, j'ai quand même ces capacités-là, j'ai ces éléments-là, et ça, justement, ça... Pour nous, c'est important parce que ça va faire intégrer davantage la personne dans nos programmes. Et effectivement, on sait qu'une personne qui est davantage imprégnée et investie dans ces programmes-là aura plus de bénéfices justement pour sa santé. Alors effectivement, on n'est pas là pour dire vous remarcherez, oui ou non. Ça effectivement, c'est toujours, ça fluctue, c'est très difficile à dire justement. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer. On fait cette activité-là pour développer ces capacités-là, pour avoir ça comme objectif. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être clair dans ce qu'on fait. On est des professionnels, donc c'est pas justement de lancer la personne dans quelque chose d'inconnu, en tout cas. Si on demande à la personne, au patient, de faire ces choses-là, c'est parce qu'on sent la personne qui est capable de les faire, et c'est qu'on va pas justement lui faire prendre des risques. Et donc ça revient aussi de nos compétences à nous. Nous connaissons ces activités, justement. C'est nos spécialités. Donc on les connaît par cœur. Maintenant, effectivement, on connaît les patients aussi. Et donc on sait à peu près, c'est pour ça que c'est de l'activité physique adaptée, parce que c'est adapté justement aux pathologies des personnes. C'est en fonction de leurs capacités, mais c'est aussi en fonction de leur envie, de leurs besoins, de leurs attentes. Et nous, c'est important effectivement de sonder, comme vous le disiez tout à l'heure, ce côté... pluriprofessionnel, où on récupère des informations, mais le côté aussi... important, où c'est les patients, c'est l'avis du patient qui prime aussi. Donc, et cet élément-là, justement, l'avoir en lien patient et professionnel, nous, ça nous aide justement dans notre prise en charge.
Cette prise en charge, est-ce que vous croyez que c'est un élément important dans la vie d'un patient au niveau de son acceptation aussi de son nouveau corps? Du fauteuil roulant, est-ce que c'est un billet à utiliser pour pouvoir avoir le deuil de son ancien corps?
L'idée, c'est vraiment de montrer que malgré, donc là c'est effectivement c'est pour les personnes blessées médulaires, donc en fauteuil, malgré le fauteuil, il y a énormément de possibilités. Et ça, effectivement, c'est justement nous, quand, quand nous avons les patients en séance, c'est de leur montrer tout le panel possible d'activités et tout le panel possible, eux, de leurs compétences, en fait. Chaque patient, chaque personne a des capacités. L'idée, c'est justement de les faire émerger. Donc la personne s'est construite effectivement au fil de sa vie, survient un accident, une maladie. Comment effectivement je peux me réapproprier mon corps? Et donc l'idée, c'est effectivement, par ces activités physiques adaptées, retrouver les sensations passées. Donc effectivement, peut-être que je faisais telle activité, maintenant en fauteuil c'est peut-être difficilement réalisable, mais nous on va l'aider justement à trouver quelque chose qui, dans son vécu, va arriver à retrouver un nouveau goût justement. Donc, et pratiquer, c'est ça, une activité physique adaptée, c'est aussi permettre d'améliorer sa santé. Donc effectivement, on ne va pas forcément guérir avec les activités physiques adaptées, mais on va améliorer sa santé, sa qualité de vie et justement son autonomie. Donc c'est comment justement sur ces différents éléments-là, je vais pouvoir jouer. Donc là effectivement, on parle des personnes blessées médulaires, mais on pourrait parler des personnes vieillissantes, parce que notre champ d'intervention, nous, en activité physique adaptée, nous permet effectivement d'intervenir auprès de toutes sortes de populations. Donc ça peut aller des personnes âgées, ça peut aller justement des personnes en situation de handicap, mais c'est très global, c'est très global, et c'est ça qui est intéressant, et ça qui est riche, c'est que toute personne justement va pouvoir s'approprier ses activités physiques adaptées en fonction de justement ses capacités, en fonction de ses envies, en fonction de ses attentes, en fonction de tous ces éléments-là.
Merci Valentin pour ces propos pleins de passion. Nous allons avoir une courte pause musicale, chers auditeurs, et après ça, nous allons continuer à discuter des différents axes d'intervention du coach APA. Bonne écoute, il s'agit de Eye of the Tiger de Survivor, célèbre titre connu pour être dans le film Rocky 3. We'll be right back. Chers auditeurs, vous êtes de retour sur Dear Valley People après l'écoute de Eye of the Tiger de Survivor. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous sommes toujours en compagnie de Valentin Billard, enseignant activité physique adaptée au centre Probara. Nous allons continuer à discuter et parler des autres axes d'intervention de l'enseignant APA. Vous avez parlé du social, médico-social, de l'associatif. Est-ce que vous êtes capable de développer un peu plus comment ça se passe dans ces milieux-là?
Alors, je pourrais peut-être pas vous expliquer en détail complètement comment ça se passe. Dans la branche effectivement sociale, médico-social, je peux prendre un exemple sur la maison d'accueil spécialisée Les Soleils à Propara. Pour laquelle effectivement je travaille également. Nous sommes vraiment effectivement dans une branche différente. Sur les patients, nous sommes plus sur un versant plus de réadaptation. Donc effectivement, les patients viennent pour un séjour de courte, de moyenne durée ou de longue durée et ils ressortent par la suite. Donc voilà, c'est les amener à pratiquer l'activité physique adaptée pour les différents aspects que nous évoquions tout à l'heure. Dans le médico-social, social-médico-social, donc là que les maisons d'accueil spécialisées, on est plus déjà par rapport, donc ce sont des résidents, ce ne sont plus des patients mais des résidents, donc qui effectivement rentrent dans ces établissements et passent justement toute leur vie parce qu'il y a des besoins en termes de santé, en termes de soins qui est important justement. Et donc le personnel présent permet cet accompagnement. Dans ce type d'établissement, l'activité physique adaptée a pour but plus de maintenir les capacités des résidents. Donc ce sont des personnes qui sont atteintes de certaines pathologies, et donc c'est comment avec ces activités-là on peut d'une part maintenir les capacités fonctionnelles, toujours pareil, on va travailler sur les différents aspects. Les APA vont travailler toujours sur ces différents aspects, donc le fonctionnel, le psychologique, le cognitif, le physiologique et le social. Donc en fonction des pathologies, des populations, on va travailler sur différents éléments. Dans la maison d'accueil spécialisée, le plaisir c'est ce qui prime le plus, parce que justement ces résidents vivent au quotidien justement dans cette maison d'accueil spécialisée. Donc c'est d'essayer justement par le biais des activités physiques adaptées, de le faire sortir un petit peu du quotidien. Donc c'est comment je peux par le biais de ces APA essayer de leur apporter quelque chose de plus. Donc d'une part le plaisir, c'est d'essayer effectivement de faire une activité, de jouer contre quelqu'un, de créer un esprit un peu compétitif, parce qu'on se rend compte que ces résidents-là, justement, pour lesquels je travaille au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a un esprit compétition qui est très fort, autant que vous et moi, quand on se lance dans une activité, c'est quelque chose qui prime, c'est quelque chose qui les mène, justement, à aller au bout des choses. Et ça, dans les APA, nous, on va essayer de jouer là-dessus. C'est comment je vais créer peut-être des compétitions ou quoi que ce soit. Et donc, c'est un plaisir pour eux de... ils sont habitués à se voir tous ensemble, donc là je suis contre un tel, je suis avec un tel, on forme une équipe, on fait ces éléments-là, et donc c'est comment justement je peux arriver avec les APA à créer cette petite dynamique-là en plus, que j'ai peut-être pas d'habitude sur différentes activités, donc comme de la boccia, qui est de la pétanque un peu adaptée en gymnase, ou c'est des activités de balnéo, ou des activités de sport collectif, tel du hand ou du rugby, voilà. Donc c'est les objectifs ne sont pas les mêmes effectivement que sur des patients dans des SSR ou dans différents centres de rééducation. Donc on est vraiment sur de versants complètement différents. Maintenant sur la branche un peu sport, donc qui regroupe toutes les fédérations, donc comme la fédération handisport ou sport adapté ou même les associations, c'est des fédérations qui sont importantes parce qu'ils permettent justement à ces personnes en situation de handicap de pouvoir justement pratiquer une activité qui soit justement déjà encadrée par des professionnels APA. Parce que le but c'est ça aussi, c'est que les professionnels APA sont une formation universitaire qui a été créée en 80 en France, si je me trompe pas, et qui justement permettent les formations universitaires qui ont été mises en place permettent de former correctement ces professionnels justement, tant sur le plan théorique, sur des bases physiologiques, sur les bases biomécaniques, sur ces éléments là mais aussi sur la base propre de notre métier qui est l'éducation physique et sportive. Nous dépendons effectivement de l'UFR STAPS, et donc c'est notre corps de métier, donc justement le fait que les personnes viennent pratiquer dans ces fédérations ou dans ces associations sont un gage justement de bon encadrement des pratiques. Et donc je sais que si je viens dans ces fédérations ou ces associations, je sais que je vais être encadré par quelqu'un de compétent. Donc effectivement, chacun a ses propres personnalités, bien sûr, hein. Mais c'est quelqu'un qui a la formation, qui connaît effectivement le domaine, qui connaît l'activité, qui connaît aussi les populations. Et pour moi, en tant qu'adhérent, si je suis à être un adhérent, justement, je peux me retrouver là-dedans et je sais que je serai encadré. Plutôt que, effectivement, d'aller pratiquer dans un club valide où, malheureusement, ça peut arriver, effectivement, mais les clubs valides, pour beaucoup, l'encadrement n'est pas compétent dans ce domaine-là du sport et du handicap, si je prends les fédérations handisport ou ces éléments-là. Donc, c'est important de pratiquer avec le bon encadrement et dans de bonnes conditions. Et c'est le rôle justement de ces fédérations, c'est aussi de faire émerger un mouvement, donc là en e-sport ou sport adapté ou ces différentes branches-là, et par exemple à Montpellier, donc du Montpellier Club en e-sport qui permet justement aux personnes en situation de handicap de pouvoir pratiquer un panel d'activités assez large et bien encadré aussi par des enseignants en APA.
Oui, cette association a une certaine renommée dans la communauté en situation de handicap. Est-ce que handisport et sport adapté, est-ce la même chose? C'est une question simple, mais qui me vient là tout de suite. Est-ce que c'est la même chose?
Non, c'est pas du tout la même chose. Pour faire simple, la fédération handisport, ça regroupe des personnes ayant des pathologies touchant plus le côté moteur. Le sport adapté, ça regroupe davantage des personnes ayant des pathologies qui regroupent justement des troubles plus mentaux. Voilà comment on peut faire un peu le lien entre handisport et sport adapté. Ce sont vraiment deux fédérations complètement différentes, mais qui proposent par contre, qui peuvent proposer les mêmes activités. Vous pourrez retrouver quand même une activité du tennis de table ou de la boccia, ou voilà, c'est donc trompe peut-être, mais voilà, c'est vraiment deux fédérations différentes, mais qui effectivement peuvent regrouper en tout cas les mêmes activités physiques adaptées, les mêmes activités.
Il y a une forme de transversalité entre les deux groupes. Est-ce qu'on peut dire aussi que le sport paralympique est plus une continuité de l'handisport, ou est-ce encore quelque chose à part?
Alors non, c'est pas quelque chose à part effectivement, pour certains athlètes, justement c'est une continuité, pour certains que je connais effectivement, pas personnellement mais que j'ai déjà croisé plusieurs fois, ils ont commencé justement en tant que patient à Propara, Ils ont une continuité au Montpellier Club Handisport. Et maintenant, effectivement, touche davantage tout ce qui est... tout ce qui est équipe de France, ces éléments-là. Donc le mouvement olympique, effectivement, en e-sport, on peut parler, en tout cas de mon avis personnel, hein, d'une continuité, justement. C'est effectivement, c'est une étape d'après pour certaines personnes qui ont besoin, justement, de ces éléments-là qu'on retrouve dans le sport. On peut parler aussi de sport, mais voilà, c'est une continuité.
Finalement, c'est beau aussi de voir que l'APA peut être le début d'une passion. Un patient qui n'avait pas du tout objectif de venir vous voir et qui, quelques années plus tard, fait partie d'une équipe paralympique française. C'est quelque chose qui permet de vous rendre fier de votre métier, non ?
Oui, complètement. Après, effectivement, il n'y a pas beaucoup de patients qui ça arrive, mais effectivement, je pense que dans d'autres centres, c'est la même chose. L'idée, c'est vraiment ça. C'est certes, on a donc il y a le côté un peu réadaptation dans les activités physiques qu'on propose au sein du centre, mais l'idée, c'est aussi de voir quand les patients arrivent en fin de séjour. Comment on peut les accompagner au mieux pour justement il y ait une continuité dans la pratique. Le but, c'est pas de leur faire pratiquer au centre et ensuite de couper complètement les ponts, d'arrêter quoi que ce soit à la sortie du centre. Pour le patient, justement, c'est d'essayer de prendre conscience des bienfaits que ça peut apporter. Donc toujours pareil sur les différents aspects qu'on avait tout à l'heure, mais c'est de voir comment justement ces aspects-là, je peux essayer de les retrouver par la suite. Donc on accompagne par notre réseau personnel justement sur les différents clubs qu'on peut connaître ou les différents professionnels, pourquoi pas, en activité physique adaptée à l'extérieur, comment justement on peut créer ce lien-là et ne pas justement lâcher le patient dès le début. Donc si justement on incite les patients à nous laisser leurs coordonnées, si justement ils ont des questions sur des conditions de pratique ou quoi que ce soit, nous on se fera justement une joie de pouvoir essayer de les accompagner au plus dans leur pratique, pratique de tous les jours, mais c'est aussi notre façon de faire, en tout cas nous au sein du centre, avec mes collègues, c'est d'accompagner au mieux les patients pendant leur phase justement de réadaptation au sein du centre, mais il y a aussi une phase après, et cette phase après, elle est aussi importante parce que les patients vont ou pas justement se découvrir peut-être quelques compétences ou quelques éléments, je sais pas comment le tourner exactement, mais cette phase là après centre est je pense très très importante, qu'il y ait une continuité.
Ou une passion aussi, par exemple.
Ou une passion, oui, ou une passion, bien sûr.
Quelles sont les difficultés pour ces patients de créer cette continuité après le centre? Vous avez pu parler de la difficulté à inclure dans les pratiques classiques. Est-ce qu'il y a d'autres éléments?
Déjà, je pense qu'il y a l'élément un peu géographique. Je pense que il n'y a pas forcément de clubs handisport ou d'associations regroupant des professionnels. Donc il y en a partout en France, mais ça se peut que certaines personnes soient isolées. Et peut-être qu'effectivement, aller se déplacer à tel endroit pour pratiquer une activité, ça peut être contraignant effectivement pour les patients. Après, bon, toutes les activités peuvent justement être adaptées. Maintenant, c'est dans quelles conditions elles vont l'être. Nous aussi, c'est ça, c'est d'essayer d'enlever un maximum de freins à la pratique et d'essayer d'orienter au mieux les patients par la suite. Donc, pour beaucoup, effectivement, il y aura une continuité. Pour d'autres, c'est aussi retrouver une vie, donc avec tous les quotidiens, donc tout le quotidien, c'est-à-dire soit une formation, soit un travail, soit des projets personnels. Et c'est aussi essayer d'avoir le temps, peut-être, pour pouvoir pratiquer cette activité. Donc, je pense que les freins, s'il y en a, ne sont pas que dans l'activité, mais c'est aussi au quotidien. Après, je sors du centre où je suis un petit peu confiné, et quand j'en sors, justement, comment j'arrive justement à gérer un peu tous ces nouveaux éléments dans ma vie de tous les jours.
C'est un combat de tous les jours, même pour démarrer une nouvelle activité en dehors du centre. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le titre de Survivor comme pause musicale, cher auditoriste. Mais cette activité peut générer beaucoup de choses comme une passion ou reprendre une motivation pour une formation ou un travail. Sur ces belles paroles, il est l'heure de se quitter, cher auditoriste. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode de Dear Valley People. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et à aller sur le site web de Radio FM Plus pour retrouver les épisodes précédents. Bonne journée.